Les grandes heures de la France par Octave Aubry. Chapitre 1er. De César à Charlemagne. La Gaule. Une nation est faite par la race et par ses chefs. Le ciel, le sol, le climat oriente sa destinée. Il ne la décide pas tout entière. L'existence même et le développement de la France, où s'est très tôt dégagé le sentiment d'une vie nationale par la parenté, sinon la communauté des idées, de la langue, des croyances et des intérêts, ont dépendu des hommes qui, sortis d'elle, ont groupé ces éléments épars, l'ont aidé à se défendre, à se parfaire ou à se transformer. Comme tout ce qui vit, un pays ne subsiste que par une action continue. C'est ainsi qu'a pris forme et puissance, avec lenteur et non sans de rudes secousses, cette vaste nef emplie de laboureurs et d'artisans, de bourgeois, de seigneurs et d'artistes, qui a connu déjà, sur le double océan du temps et de l'espace, tant de houles, d'ouragans et d'écueils. Mais si elle a fait haut, bien souvent, elle n'a jamais sombré. Même aujourd'hui, elle garde une vitalité profonde, une capacité de renouvellement et d'adaptation, une qualité de courage, qui même à ses adversaires ne peuvent faire douter de son avenir. Car la France n'est pas qu'un grand passé, c'est aussi une grande espérance. Elle a pu s'égarer, elle se retrouvera pour le bien de ses fils et pour le bien du monde, qui perdrait le meilleur de son âme si jamais elle périssait. Presque à l'extrémité de l'Europe, bornée par trois mers, la Manche, l'Atlantique, la Méditerranée, par quatre massifs montagneux, les Pyrénées, les Alpes, le Jura, les Vosges, par un large fleuve, le Rhin, s'étend un territoire fertile, doux, varié, où les hauteurs, les plaines, les eaux, les bois, les champs, forment les oppositions les plus heureuses et les harmonies les plus fortes. La température y est égale. Son sous-sol est assez riche en minéraux. Ses prairies sont propres à l'élevage, ses plaines s'offrent à la culture du blé, de l'orge, de l'avoine. C'est un très beau, c'est le plus charmant des pays. Il se prête aux travaux des hommes plus qu'aucun endroit de la planète. Bien épaulé au continent, ouvert largement aux vagues, il semble destiné à devenir l'aire de rencontre des civilisations, le confluent des échanges spirituels et matériels des peuples. Il est fait pour jouer à la fois un rôle éminent sur terre et sur mer, et servir de métropole à un empire. Cette position si favorable est pleine pourtant de périls. À l'est, sa frontière est mouvante au gré des invasions. Les populations qu'il aborde sont d'essence guerrière. Leurs terres plus ingrates les nourrissent difficilement. Au nord, une île envieuse et marchande lui opposera une rivalité implacable chaque fois que grandiront son commerce et sa flotte ou que croîtra son rôle sur le continent. Par fortune, le peuple qui va habiter la terre privilégiée sera fécond en soldats. Sa souche multiple est étonnamment enchevêtrée. L'ont formé d'abord les Ibères et les Ligures, puis les Celtes et enfin les Galates et les Kimris. En quelques siècles obscurs, la fusion d'éléments si divers s'accomplit quasi complète. Capables d'enthousiasme soudain et d'abattement excessif, les Gaulois, comme on appelle ce mélange, sont loyaux mais sans constance, jaloux les uns des autres, indisciplinés. Mais qu'un péril les menace, ils se rapprochent aussitôt. Ils méprisent la mort, la côtoient à plaisir. Gais et bavards, amis des repas et du vin, entêtés d'éloquence, il se montre le plus souvent sociable, généreux, enclin, trop enclin même, à subir l'influence des étrangers. Les Phéniciens d'abord, puis une colonie de Grecs établie à Marseille, leur ont apporté les métiers et les arts qui, des côtes, se sont répandus à l'intérieur. Quand César paraît, il trouve les Gaulois pourvus déjà d'une civilisation véritable. Cependant, divisés en une soixantaine de petits états formés eux-mêmes de clans querelleurs, les Gaulois n'ont pu s'élever encore à une conception politique d'ensemble. C'est leur faiblesse sans remède, elle va décider de leur sort. La Gaule rassemblée en une seule nation et animée d'un même esprit pourrait défier le monde, écrit César. Elle ne saura pas s'unir pour résister aux Romains. César. Une haute vue d'avenir appelle César en Gaule. Les Gaulois ont jadis envahi l'Italie, mis Rome à rançon. Eux ou leurs alliés peuplent la plaine du Pô. Ils ont été les meilleurs soldats d'Hannibal. Pour les tenir en respect, il ne suffit pas de les enfermer derrière les Alpes. Il faut conquérir la Gaule, la marier étroitement au monde latin, pour en faire le rempart de Rome contre les Germains déjà menaçants. À ce glabre capitaine, pâle de sa pensée et de ses vices, qui, habitué au dernier raffinement, s'impose la plus dure vie de soldat, chevauche à la tête de légions souvent découragées par des forêts, des marécages mortels, court du sud au nord, passe en Angleterre, revient sur le Rhin pour gagner aussitôt la Belgique, qui, comme indifférent au succès, brasse tout du même air là et profond. Affaires de Rome, négociations avec les tribus rivales, levées d'auxiliaires, construction de flottes, à César, le plus grand homme et le plus complet, qui sans doute est encore paru sur la terre. Il faut 5 campagnes, 8 ans de lutte farouche pour battre les peuples gaulois éparpillés, entre 58 et 50 avant Jésus-Christ. Vers la fin seulement, un jeune chef arverne, Vercingétorix, suscitera une espèce de soulèvement national. Mais l'aristocratie gauloise l'abandonne à Alésia. Vercingétorix se livre au vainqueur. César, en d'autres occasions plus magnanimes, fait après son triomphe mettre à mort le héros. Rome était dure, elle ignorait la pitié. À sa civilisation plus complète, mieux armée, mais qui moralement n'est pas supérieure, car elle n'approbasse que la force, la civilisation gauloise cède entièrement en moins d'un siècle. Rome lui impose des cadres solides, une législation que déjà des siècles ont assouplie, une organisation municipale stable, enfin la sécurité contre les envahisseurs. La Gaule se couvre de villes neuves, de grandes exploitations agricoles. Les routes la sillonnent en tous sens, minces rubans pavés, qui vont à l'assaut des forêts vierges et des déserts, remplacées bientôt par des plantations d'oliviers, de vignes, de céréales. Elle est opulente, elle est heureuse, par l'ordre et la paix. Les invasions barbares. D'abord dans les villes, plus lentement dans les campagnes, l'antique religion des druides s'est repliée devant les cultes romains. Leur règne sera court, déjà le christianisme paraît. Il apporte dans le monde antique une douceur inconnue, un réconfort qu'aucune foi encore n'avait donné. La Gaule délaisse un polythéisme classé par la politique pour embrasser le culte tiède encore du sang des martyrs. Potin, Blandine, Irénée, Denis fondent par leur sacrifice l'église des Gaules. À mesure que l'empire s'affaiblit par l'excès de richesses, la corruption des mœurs et l'abus de la fiscalité, cette église va devenir l'organisation la plus forte, le secours le plus efficace de populations maintenant si exposées aux entreprises barbares. Car, après avoir contenu pendant 4 siècles les Germains, après les avoir même employés sur les frontières comme soldats et comme colons, l'immense administration romaine, qui, bourrée d'étrangers, s'est vidée de son âme, résiste de plus en plus mal aux mouvantes multitudes qui l'assaillent sur le Danube et sur le Rhin. De grands empereurs, Julien, Valentinien, Théodose, arrêtent un moment le flot. Mais bientôt, une plus forte vague rompt leur digue fragile. Après les Goths, les Vandales, les Burgondes, les Francs, surgissent les Huns. C'est la grande invasion, véritable marée de peuple qui déferle sur un monde policier mais vieilli et l'écroule. Les Huns, Mongols, le visage tailladé, aux yeux étroits qui semblent passer leur vie cloués à leurs petits chevaux bondissants, poussent devant eux ces peuples affolés. Attila, qui lui-même se déclare le fléau de Dieu, les commande. Tout fuit devant l'Asie en marche. Seuls résistent les évêques, qui, dans la décomposition de l'Empire, sont devenus les premiers magistrats et les protecteurs naturels des cités. Saint-Loup, évêque de Troyes, se rend au camp d'Attila et, s'offrant en otage, le persuade d'épargner la ville. Saint-Aignan, évêque d'Orléans, arme son peuple. Il fixe les Huns sous ses murs assez longtemps pour qu'un Aécius réunisse une armée composée autour de barbares établis en Gaule. À son approche, Attila abandonne la Loire et se replie vers l'est. Aécius l'attaque entre Troyes et Châlons au champ catalonique et le défait. C'est le dernier grand service rendu par Rome à l'Occident européen. L'Église s'allie aux Francs. Cette union précaire des Gallo-Romains et des barbares devant le péril jaune, l'Église, refuge de la discipline et de l'esprit, va s'efforcer de la rendre permanente pour assurer le salut de la Gaule. Elle ne peut guère s'appuyer sur les Visigoths et les Burgondes qui, s'ils ont embrassé le christianisme, se sont attachés à l'hérésie arienne. Elle préfère le concours des Francs, bien moins nombreux demeurés plus incultes et que la croix n'a pas encore séduit. L'Église va faire leur fortune, et dans l'Église surtout, un homme qui semble avoir déchiffré quelques mots de l'avenir, Saint-Rémy, évêque de Reims, vénéré de toute la Gaule du Nord. Saint-Rémy est le type même de ces chefs religieux qui, dans le désastre de la civilisation révolue, se placent stables et forts comme les pierres d'un guet vers la civilisation future. En 481, Clovis est salué roi des Saliens de Tournai, qu'il élève au Pavois. Ce jeune homme n'est vraiment qu'un sauvage, comme ses aïeux et ses soldats, un guerrier farouche et perfide, mais doué d'intelligence, de sombre adresse. Il a des vues politiques. Sommaire sans doute, elles suffisent pour le temps. Vite, il comprend que le concours de l'Église peut lui donner un grand pouvoir. Il s'entend avec Saint-Rémy et attaque le patrice romain Siagrius, qui s'est taillé une souveraineté personnelle entre Seine et Loire. Fort de ses 5 ou 6 000 guerriers, Clovis le bat près de Soissons. Au partage du butin, Saint-Rémy ayant réclamé un bas sacré volé à sa cathédrale, Clovis le demande en sus de sa part. Un franc se dresse, insolent. « Tu ne prendras au roi que ce que le sort t'a donné. » Il brise le bas d'un coup de sage de jet, la Francisque. Trop faible encore pour contrevenir aux coutumes de sa race, Clovis ne relève pas l'affront. Mais l'an d'après, passant la rue de ses troupes, il interpelle l'insulteur. « Tes armes sont mal tenues. » Il les jette à terre et tandis que l'homme se baisse pour les ramasser, ils lui fond la tête en s'écriant « Souviens-toi du vase de Soissons !» Les francs rient, applaudissent à ce tour brutal, et les chefs religieux, sentant qu'un protecteur fort enfin leur est né, se rangent en silence derrière lui. Durant 10 obscures années, guerroyant et négociant, Clovis assure sa domination sur les gallo-romains du nord de la Loire. Il ne leur fait pas endurer un joug trop lourd, selon le conseil des évêques. Il a épousé une princesse burgonde et catholique, Clotilde, qui le presse de renoncer aux idoles. Clovis résiste longtemps, mais, rapporte la légende, dans une rencontre en Alsace, à Zulpich, Tolbiac, contre les Alamans, il promet, se voyant en péril, de recevoir le baptême, si le dieu de Clotilde lui accorde la victoire. À droite mise en scène, qu'embelliront plus tard les clercs des monastères. C'est surtout l'intérêt qui pousse Clovis à se faire chrétien après qu'il a refoulé l'envahisseur. Saint-Rémy verse sur sa tête l'eau du baptême. « Courbe la tête, fier sycambre !» aurait dit Saint-Rémy. « Adore ce que tu as brûlé et brûle ce que tu as adoré !» L'alliance des francs et des prêtres est depuis lors scellée. On va en voir presque aussitôt les résultats. Après la bataille de Vouillé et la mort du roi Visigoth Alaric, la Gaule entière est soumise aux chefs francs. En 510, l'empereur d'Orient Anastase le reconnaît comme patrice des Romains et lui envoie les insignes de consul. L'Église lui a procuré cette consécration suprême qui décide en sa faveur les derniers hésitants. Désormais, écrit un chroniqueur, on lui parla comme à un empereur. La Gaule franque. Clovis prend Paris pour capitale et il y fonde sur la colline qui prendra le nom de montagne Sainte-Geneviève, la basilique des apôtres Pierre et Paul. Pour un court moment, il a rassemblé dans ses mains la terre gauloise, mais il n'a pu créer une unité politique ni fondre les gallo-romains et les francs. Il n'en a pas eu le temps, il ne l'a d'ailleurs point cherché. Son règne n'a été qu'une dictature barbare bonne à protéger la Gaule contre les invasions nouvelles et à sauver les derniers centres de civilisation. Son royaume après lui se divise comme un champ entre ses 4 fils, aussi rudes et cyniques que lui. Famille d'Atrides où l'on se dépouille et se tue, Clotaire, le dernier, à coup d'assassinat, parvient à réunir, même à augmenter, le royaume de Clovis. Ses fils, à leur tour, le morcellent pour se livrer entre eux à la guerre la plus sauvage. Ce sont des loups, des hyènes à couronne, qui se déchirent en déchirant leur proie. Dagobert, pour un règne de 10 ans, arrête la décadence des Mérovingiens. Il défend son royaume contre des envahisseurs slaves, Vandes et Bulgares, soumet les Bretons et les Vascons, guerroie en Espagne, étend sa domination jusqu'au pays du Haut-Danube. Fastueux ami du clergé, il rebâtit la basilique de Saint-Denis, fonde main monastère. Ses ministres principaux seront des clercs, surtout Saint-Ouen, évêque de Rouen, et Saint-Éloi, évêque de Noyon. Il tient une cour sans mœurs et d'un luxe épais. Mais il montre le goût des lettres et des arts, un sens curieux du droit. Il fait codifier les lois barbares. En dépit de ses vices, c'est le plus grand souverain de sa race, et vraiment le dernier. Ses fils, ses petits-fils, sont déjà ce qu'on appelait des rois fainéants. La dynastie salienne pourrit par tous ses rejets. jeune prince aux longs cheveux, énervé par les plaisirs qui s'en vont de villa en villa, traînés dans des chars à bœufs, tandis que leurs trop puissants ministres en Austrasie ou en Gaule de l'Est, comme en Eustrie ou Gaule de l'Ouest, les maires du palais s'arrogent l'autorité et luttent contre les empiètements des leudes, aristocratie rebelle, née de l'affaissement royal. Ce siècle, le septième, est l'un des plus désolés de l'histoire. Les guerriers francs sont corrompus, ils n'obéissent qu'à leurs intérêts de clan. L'Église elle-même paraît chanceler. Les évêques mènent souvent une vie barbare et dissolue. Toute vie intellectuelle semble éteinte. Le paganisme, qui n'a jamais disparu, mais se cachait, reprend vigueur. Un temple de Diane se rouvre à Trèbes, on célèbre Odin près de Zurich. Les Arabes de Charles Martel. Et voici qu'un désastre total menace ce monde qui s'abandonne. Les musulmans, venus du cœur de l'Arabie, ont, en trois générations, conquis tout le Proche-Orient, le nord de l'Afrique, les îles de la Méditerranée, l'Espagne wisigothe. En 732, l'émir Abdelrahman passe en Aquitaine. Ses cavaliers rasent tout le pays jusqu'à la Loire. Qui sauvera la Gaule? La royauté salienne est à son dernier souffle, mais par une de ces interventions providentielles que nous rencontrerons aux étapes les plus tragiques de notre histoire, un maire du palais, l'Austrasien Charles Martel, va se substituer à elle. Il rassemble tous les guerriers de la Gaule et avec ses géants blonds, couverts de peaux de bête, armés de piques, de pieux, de framés, vient se poster entre Tours et Chinon devant les innombrables cavaliers de l'émir, petits et basanés sous leurs manteaux blancs. Pendant 7 jours, les deux armées s'observent. Le 8e, les Arabes attaquent, brûlants et mobiles comme les sables du désert. Les Francs, de leur grande poitrine, leur opposent un mur qui ne se laisse pas entamer. À la fin, voyant leur camp menacé par le duc d'Aquitaine, Eudes, les musulmans tournent bride. Ils n'emportent pas leur butin, mais fuient en désordre et, pourchassés, décimés, regagnent les Pyrénées en 732. En cette rencontre célèbre, qu'on appellera à tort la bataille de Poitiers et qui vendra à Charles le surnom de Martel, pour voir sans trêve écraser les Sarrasins de son lourd marteau d'armes, ont été préservées l'Europe et la foi chrétienne. Par un si éclatant succès, Charles d'Héristal a mérité que sa race succéda à la descendance usée de Mérové. Une nouvelle dynastie, les Austrasiens. Plus grand qu'un roi, sans qu'il en ait porté le titre, quand Charles Martel va dormir dans la crypte de Saint-Denis, lui succède son fils Pépin, dit le bref, pour sa taille petite. Un dernier descendant de Clovis, Childéric III, traîne encore ses jours, loin des affaires, dans une métairie. Pépin fait demander au pape Zacharie « Lequel devrait être roi? Celui qui demeure en ce logis sans fatigue ni péril, ou celui qui supporte le fait du pouvoir ?» Le pontife répond selon le vœu de Pépin. Childéric est tondu et enfermé dans un couvent, et le fils de Charles Martel élevé sur le pavois en 752. L'an d'après, le pape Étienne II vient lui-même à Saint-Denis le sacrer avec solennité. La dynastie austrasienne s'est assurée ainsi non seulement l'adhésion des grands et du peuple, mais par la consécration pontificale, une légitimité supérieure, celle du droit divin. Ce qu'on peut retenir du règne de Pépin, c'est la protection active dont, en récompense d'un tel service, il entoure l'Église. Les Lombards veulent la dépouiller et prendre Rome. Ils passent les Alpes et les Bas. Ils leur arrachent dans l'Italie centrale de grands territoires qu'il attribue à la papauté et qui formeront désormais le patrimoine de Saint-Pierre en 755. Il guerroie le reste de sa vie en Aquitaine et au-delà du Rhin. Ayant ainsi ouvert pour son successeur une large carrière, il laisse son trône à ses deux fils, dont l'un, Carloman, disparaît très vite, dont l'autre, Charles, sera un grand chef, un grand homme, le nom le plus sonore de l'histoire entre ceux de César et de Napoléon. Charlemagne. Dans un règne de près d'un demi-siècle, avec une volonté tenace, il va essayer de reconstituer en Occident cet empire romain effondré depuis Constantin est demeuré dans la mémoire des peuples comme le symbole de l'ordre, de la justice et de la paix. Pareil dessein, aucun des mérovingiens n'a pu l'imaginer. Ils étaient d'âme trop rude et trop courte. Charles, qui l'a conçu, méritera par là d'être appelé Charles le Grand, Charlemagne. Charles est avant tout un guerrier. Mais ces guerres ne sont plus les luttes de tribus ou de chefs, les expéditions de pillage des Mérovingiens. Ce sont des guerres politiques, inspirées par un plan d'ensemble. Il commence par descendre en Italie à la demande du pape et détruit la tyrannie des Lombards. Il se coiffe à Milan de leur couronne de fer. Plus difficile est la conquête de la Germanie. Mais Charles sait que sans elle, il ne peut y avoir de paix durable en Occident. Il conduira 18 expéditions pour briser la résistance des Saxons, païens redoutables, qui offrent à l'idole Hermensule leurs prisonniers en sacrifice. Leur chef, Bittikind, les unit et les fanatise. C'est un véritable héros de l'indépendance germaine. Vaincu 10 fois, 10 fois il se relève et recommence la lutte, toujours plus acharnée. Charles n'en triomphe qu'à force de massacres, à la vérité atroce. La Saxe devient presque un désert, mais le christianisme est imposé aux survivants. Ou la mort, ou le baptême. Bittikind lui-même le reçoit pour sauver sans doute le reste de son peuple. Charles assujettit les Saxons aux lois franques. Il est, à 8 siècles d'intervalle, pour la Germanie, ce que César a été pour la Gaule. Il fonde partout des évêchés, des monastères, des forteresses et des colonies militaires qui deviennent bientôt des villes et des centres de culture. Grossissant son armée de l'afflux des guerriers conquis, il oblige à payer tribut les Slaves d'au-delà de l'Elbe, refoule les Danois, soumet les Bavarois, châtie les Avars, descendants des Huns, et leur reprend le butin d'Attila. En Espagne, après l'échec de Roncevaux qui coûte la vie à l'un de ses familiers, le contrôlant et à l'arrière-garde des Francs, et qui servira de thème au premier de nos poèmes, la chanson de Roland, Charles envoie ses fils combattre les princes arabes et fonde au-delà des Pyrénées jusqu'à l'Èbre 2 marches qui deviendront le royaume d'Aragon et le royaume de Navarre. En l'an 800, il a ainsi accompli la part majeure de sa tâche. Tout ce qui est chrétien en Occident relève de son empire. Ne lui manque plus que le titre d'empereur. Une négociation secrète à Paderborn, une de ses résidences favorites, avec le pape Léon III, venu lui demander secours contre ses sujets révoltés, prépare sa proclamation de manière à frapper l'imagination des peuples. Charles revient en Italie et le jour de Noël s'agenouille à Rome dans la basilique de l'apôtre Pierre. Tandis qu'incliné devant l'autel, il prie après la messe, le pape pose sur sa tête la couronne impériale. Et la foule qui remplit l'édifice s'écrie « À Charles Auguste, couronné par Dieu, grand et pacifique empereur des Romains, vie et victoire !» Le conquérant feint de protester par modestie. Le pape se prosterne devant lui. Quand il se relève, l'Empire d'Occident est ressuscité. L'histoire et la légende. Dans son palais d'Aix-la-Chapelle, bâti à l'imitation des grandes résidences romaines, mais où sous les stucs, les plafonds peints, les étoffes brodées, transparaît la barbarie si proche, Charlemagne garde jusqu'en son vieil âge la même vie nomade et forte. De haute taille, avec une tête ronde, colorée, de grands yeux vifs, des moustaches, point de barbe, un torse épais, une voix petite, sans résonance, il guerroie toujours, chasse, voyage, rend la justice et à ses moments de loisir chante au lutrin. Son existence privée n'est point exemplaire. Marié 5 fois, il a beaucoup de fils et de filles qui, avec ses leudes, ses conseillers, des princes d'Europe et d'Orient, lui font une cour mouvante et bigarrée. Le soin de son empire ne le quitte guère. Ses ministres, le chancelier, le chambrier ou intendant du palais, le sénéchal ou maître d'hôtel, le connétable ou chef des écuries, le chapelain, travaille directement avec lui. Toute l'organisation de cet énorme État, à la vérité artificielle, qui ne repose ni sur des bases ethniques, ni sur des intérêts permanents, mais qui constitue un progrès immense sur l'anarchie des derniers siècles, reçoit son impulsion de la volonté toujours en éveil de Charlemagne. Dans une société qu'imprègne déjà l'esprit féodal, il demeure le maître de tout. Pour inspecter toutes les parties de son empire, il y envoie des agents sûrs, les missis dominici. Chez lui, le souverain civil passe encore le militaire. Il construit des routes, des ponts, des églises, des couvents, des palais, des écoles. Cet ignorant, car il ne sait pas écrire, s'emploie à une renaissance de la culture. Il restaure les études, établit des écoles élémentaires et gratuites où tout enfant peut s'instruire, des écoles claustrales où les clercs, jusqu'alors illettrés, apprennent la théologie et les arts libéraux. Il fait recueillir des annales, copier et enluminer les manuscrits des auteurs anciens qui, sans ce soin, se seraient perdus. Cette barbarie qui essaie de se polir et de s'élever a de quoi émouvoir. Depuis la destruction du savoir antique, jamais pareil effort n'avait été tenté pour en recueillir et utiliser les débris. C'est par cette attitude, ce souci, que Charlemagne est demeuré vivant dans la mémoire des peuples. La légende, dès sa mort, l'a saisi pour multiplier sa gloire, en faire une sorte de demi-dieu chrétien. L'empereur Charles se mue en un géant à la barbe fleurie, qui vit 200 ans et, suivi de ses 12 pères, modèle de prudomie et de bravoure, remplit le monde de ses exploits. L'épisode de Roncevaux s'élargit en une guerre épique où Charles accomplit des prodiges. Plus tard, on assurera qu'il a conquis Jérusalem. Sa figure merveilleuse animera pour des siècles les romans de chevalerie. Elle domine le seuil du Moyen-Âge que Saint-Louis doit couronner.